Bienvenue sur cette antenne. Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur cette antenne ou aussi en podcast sur www.awr.org ou aussi avec votre téléphone, et d'ailleurs je vous donnerai les numéros un peu plus tard. Aujourd'hui au programme, eh bien, Parole solidaire, un moment d'information humanitaire, et ensuite, pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue à l'écoute de Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux d'ADRA Europe et nous sommes en compagnie de Jackie Moubedi. Bonjour.
Bonjour Oscar.
Merci de nous recevoir dans vos nouveaux locaux.
Merci.
Alors, il faut rappeler, Jackie Moubedi, qu'ADRA est une organisation de foi. Et vous souhaitez justement ici soulever ce que cela implique ou représente dans la société civile. Alors, qu'est-ce que c'est être une organisation de foi exactement, Jackie Moubedi?
Alors, une organisation de foi, on pourrait dire, c'est une organisation qui a une confession, qui croit en quelque chose, qui croit en un Dieu. Et donc, on va prendre celles qui croient en Dieu, celles qui ont aussi d'autres croyances, qui ne croient pas nécessairement en Dieu ou qui croient en des dieux ou qui ont des idéologies qui sont spirituelles.
Qui sont donc l'émanation d'une organisation religieuse, par exemple.
Exactement. Mm-hmm. Et donc, en tant que ADRA, dans notre nom, donc on a aussi cette composante de foi. Et nous sommes interpellés dans le développement. Dans un article qui est paru récemment, on nous demande, on nous pose la question, où en sommes-nous dans le rôle de la foi dans le développement? C'est un journaliste anglais qui a écrit l'article et qui s'est posé cette question après avoir assisté à une réunion qui était organisée par deux organisations de foi, Christian Aid et le Secours islamique, Islamic Relief. Et il se posait cette question en se demandant quels sont les leviers, quels sont les pour et les contre de travailler avec des organisations de foi. Et en résumé, il va nous dire que si on veut connaître les personnes qui vivent dans la pauvreté, ce qui les motive, à qui elles font confiance, alors il faut qu'on prenne comme point de départ la foi. Il se base sur cela, sur l'affirmation d'une théologienne du Zimbabwe qui dit que 75% de la population africaine professe une religion. Mais c'est pas juste une religion comme ça, c'est que la vie, c'est la religion, et la religion, c'est la vie.
Donc en fait, c'est un vécu, quoi.
C'est
la religion est vécue.
C'est vraiment un vécu, exactement. Et donc lui, ce journaliste qui travaille pour Oxfam et donc qui n'est pas du tout un chrétien, s'est dit, tiens, je vais poser la question à mes collègues, par exemple de Oxfam RDC. Est-ce que vous travaillez avec l'Église catholique? Il a demandé, en s'attendant à ce qu'ils disent, ben non. Et puis ils disent, ben oui, bien sûr, c'est eux qui distribuent nos feuillets, nos leaflets. Et donc, il était très surpris de ça. Mais il dit aussi que donc il y a à cette organisation, il y avait très peu d'autres ONG, on va dire sécularisées, pour qu'il y ait un échange avec les organisations de foi. Et il voyait que les organisations de foi avaient aidé dans au moins 4 domaines. Et les 4 domaines, c'est le pouvoir d'achat, la localisation, les normes. Et aussi un dernier que je vous citerai tout à l'heure.
Et pourquoi dans le pouvoir d'achat, Jackie Moubedi?
Alors, le pouvoir d'achat, il disait, en fait, les membres ou les personnes donc, qui sont en contact avec ces organisations de foi, il y a une récolte de fonds qui se fait auprès des fidèles. Et que donc les gens vont donner automatiquement et ils donnent quand même assez bien. Et donc lui, il se disait, peut-être qu'un jour, en fait, il y a là, dans cette générosité de membres ou de donateurs, une réelle opportunité d'indépendance financière par rapport aux organisations humanitaires occidentales.
Vous parliez aussi de localisation. Qu'est-ce que vous entendez par localisation?
Alors, c'est un mot qu'on va entendre beaucoup parler maintenant par rapport aux organisations humanitaires. On va travailler avec les communautés qu'on veut aider. Et donc ici, quels sont les premiers acteurs? Ce sont les gens qu'on veut enlever de la pauvreté. Et localisation ici, il va le prendre dans le sens du réseau social, mais dans le sens où c'est vraiment les gens qui vont faire la différence, qui sont reliés les uns aux autres et qui vont ensemble assurer un plus grand bien-être. Bien-être non seulement pour eux-mêmes, mais aussi bien-être dans ce réseau social pour prendre soin de ses voisins. Et donc, il voit aussi que les normes ont augmenté. Et le norme ici, il va donner un élément de développement qui est comme une mesure, être plus plutôt qu'avoir plus. Donc, il va regarder le chemin qui a été parcouru par les organisations humanitaires et donc aussi de foi sur le terrain par rapport aux droits des gens, de l'homme, de la femme, par rapport à la consommation, par rapport à la citoyenneté et le féminisme et d'autres. Et donc, il va dire, ben voilà, toutes ces choses ont augmenté, donc c'est aussi un levier de développement.
Donc, oui, je vous écoute et vous alliez dire le donc, quatrième.
Le quatrième point qui est en fait... plutôt un point qui fâche, c'est que parfois aussi cette foi ou d'être une organisation de foi peut poser le problème ou peut être le point négatif en fait pour travailler avec une organisation humanitaire.
Et pourquoi est-ce que ça peut être un problème? Est-ce que c'est précisé dans cet article?
Alors, dans cet article, il nous donne l'exemple du Malawi où il y a des mariages d'enfants malheureusement, mais il remarque aussi que dans 20% de ces mariages d'enfants, il y a l'accord d'un leader d'église ou d'un chef religieux, quel qu'il soit. Et donc, pour lui, c'est là le quatrième point où aussi cet échange entre les organisations donc de foi et les organisations sécularisées aurait tout leur sens dans ce partage.
Et alors, on n'en a pas parlé, Jacques Moubedi, mais est-ce que ce qui peut empêcher aussi de travailler avec une organisation religieuse, c'est les dérives de certaines?
Oui, et donc, il y a certaines dérives, mais en fait, quand on travaille avec des gens, il y a toujours, entre guillemets, le revers de la médaille, mais on essaye de cadrer ça et de trouver un cadre commun pour qu'il n'y ait pas ces tiraillements entre les sociétés. En fait, quand on apporte quelque chose, c'est vrai, on peut apporter, mais dans l'autre sens aussi, il y a tout le respect à avoir des communautés que l'on veut aider. On nous demande, en fait, ces acteurs de la foi, il faut pouvoir les identifier et voir comment on peut les aider. Et surtout, c'est pas comment, mais dans quel domaine les aider. Parce que c'est peut-être pas, on n'a pas besoin de changer toutes les normes ou tout le fonctionnement d'une société pour aider. Ils demandent d'être attentifs aussi à cela.
Et est-ce que faire ensemble, donc ONG de foi et OMG laïque, est-ce que faire ensemble aurait de gros avantages?
Oui, oui, tout à fait. Même dans notre monde occidental et sécularisé, on voit que on a quand même une certaine confiance dans des organisations de foi. Mais l'importance de mettre les uns et les autres, c'est que au-delà de la volonté de changer, par exemple, les organisations de foi parfois se rendent bien compte qu'il faudrait réinterpréter les écrits ou alors le transmettre autrement. Mais de l'autre côté aussi, ça serait en s'insérant et en connaissant mieux ces organisations, ou la manière de fonctionner d'une religion ou d'une communauté via sa religion, mais on peut aussi voir comment l'aide que l'on va apporter va être plus efficace. Et ça, c'est quelque chose que nous, on fait aussi chez ADRA, en tout cas, on essaye, de toujours, quand on apporte de l'aide, c'est de respecter chaque communauté dans ce qu'elle est, croyante ou pas, enfin voilà, quelle que soit la religion, partout où elle se trouve sur le globe.
Eh bien voilà, Jacques Moubedi, merci beaucoup. C'était Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, eh bien, vous nous avez rappelé l'apport des organisations de foi dans la société civile, un aspect à ne pas négliger. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci Oscar, à bientôt.
This is Adventist World Radio, the voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste, AWR, et ici c'est la Voix de l'Espérance en compagnie d'Oscar Miani. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez rentrer en contact avec nos intervenants et leur adresser des questions. Pour cela, vous pouvez adresser vos mails à france@awr.org. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans l'émission « C'est vous l'histoire ».
C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. Votre histoire. Votre histoire compte.
Alors la première visite en prison, je crois que ce qui nous marque le plus, c'est la porte d'entrée. Chaque prison est différente, mais on ressent la même chose dans chaque entrée. C'est une grosse porte qui s'ouvre devant nous et à peine qu'on a franchi le pas, on se retourne et on entend un grand crac. C'est la porte qui s'est fermée à double tour, si je peux dire. Et on se dit, oulala, est-ce que je pourrais ressortir ?
Bonjour, aujourd'hui C'est vous l'histoire vous met derrière les barreaux. Mais attention, vous n'y serez pas seul, votre visiteur se prénomme Bernard Brunisoltz. Allure sportive, regard bleu acier, Bernard Brunisoltz a la soixantaine rayonnante. Après avoir été enseignant pendant des années, il consacre désormais une grande partie de son temps à rendre visite à des prisonniers dans des établissements pénitentiaires en Suisse, dans sa région. Mais qu'est-ce qui a bien pu le pousser à visiter ceux que l'on met au banc de la société ? Bernard Brunisoltz répond aux questions de Christine Raymond.
Moi, au départ, dans ma vie, ce qui m'intéressait, c'était le sport et les performances sportives. Et à un moment donné, quand j'ai vu que je ne viendrais jamais champion olympique, par exemple, ou que je ne gagnerais jamais le Tour de France, je me suis intéressé aux jeunes, pour former des jeunes, pour en former des champions. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le résultat, c'était les champions. Et je m'intéressais aux jeunes qui gagnaient ou qui avaient des capacités de gagner. Et puis, quand j'avais 38 ans, j'ai fait tout un cheminement spirituel. Et j'ai été interpellé par Dieu, par une remise en question sur le sens de ma vie, pourquoi je fais les choses. Et là, mon regard a commencé de changer. Quand j'ai découvert le regard que Dieu avait sur moi, le regard que j'avais sur les autres a aussi changé. Et je me suis intéressé aux gens qui gagnaient pas forcément, qui étaient pas faits pour gagner. Et puis, c'était le début d'un cheminement sur, quelque part, de mon regard sur les faibles de la société.
Ça vient d'où en fait, ce désir pour être gagnant ? Est-ce que tu as une idée de ça ?
Alors je pense que j'ai deux idées. La première, j'ai une nature, je suis très joueur, j'aime bien me battre, j'aime bien jouer. Et puis la deuxième, c'est peut-être aussi une question d'identité ou d'amour. Moi ce que j'ai reçu, alors je ne sais pas si c'est l'éducation ou c'était au fond de mon être, j'ai besoin d'être aimé. Et puis j'avais l'impression que si je faisais de grandes choses, je serais aimé ou plus aimé. J'étais aussi instite au départ. Et là, dans le village où j'étais, je m'occupais des jeunes, le mercredi après-midi, pendant les vacances, et les gens du village disaient, ça, c'est un type bien, parce que il donne son temps, il incite, mais il donne ses vacances, il donne ses mercredis après-midi. Et plus j'entendais ça, plus j'ai des choses, parce que j'avais l'impression que c'était ma manière d'être aimé. Je crois que ça a joué un grand rôle. Jusqu'au jour où j'ai découvert que j'avais pas besoin de ça pour être aimé. À 38 ans, ben c'est là que j'ai eu une grosse crise dans ma vie, parce que plus je faisais les choses, plus j'étais aimé. J'avais l'impression qu'il fallait faire beaucoup de choses pour être aimé. Puis c'est un cercle vicieux pour finir. Et à un moment donné, à 38 ans, j'ai craqué. J'ai fait comme une dépression, une petite dépression en tout cas. Et je savais plus quel était le sens de la vie. Je savais plus trop quoi faire. C'était peut-être le virage de la quarantaine aussi, comme on dit. Mais là, j'ai une grosse interpellation qui m'a permis à quelque part de rencontrer Dieu. De manière différente de ce que je l'avais appris en étant jeune, parce que j'avais quand même fait un petit bout de chemin, mais j'avais jamais perçu ce Dieu qui m'aimait tel que j'étais.
Bernard Brunisolt ne s'est pas lancé seul dans ses visites aux prisonniers. Épaulé par un groupe d'amis chrétiens, il fait partie d'une association appelée « J'étais en prison ».
Le nom de l'association « J'étais en prison », c'est un verset biblique. C'est Jésus qui parle et il dit « J'étais en prison, vous êtes venu me visiter ». Comme il dit, j'avais faim, vous m'avez nourri, j'avais soif, vous m'avez abreuvé. Donc j'étais en prison et vous m'avez visité. Donc je dois avoir un regard, je dois avoir la capacité de voir dans le prisonnier que je rencontre, pas un méchant, pas un rebut de la société, mais je dois être capable de voir la présence de Jésus, qui croit en Dieu ou pas. Parce que c'est un être humain, c'est une créature de Dieu et je dois avoir cette capacité-là.
Tu as un regard neutre hein, sur le vécu, sur les délits commis par les prisonniers. Mais est-ce que c'est facile de rester neutre?
Alors, c'est un but de rester, pas de rester neutre. Moi, ça ne me touche pas ce mot neutre. Je dois me sortir de la problématique de la personne que je rencontre, de la problématique judiciaire ou des bêtises, des conneries, des grosses erreurs qu'ils ont faites pour rencontrer la personne. Et je crois que c'est ça mon défi. Donc, je dois rester neutre dans son jugement. Alors ça, c'est sûr. On peut pas, parce qu'on a toujours une idée sur une. Quand un gars nous raconte son histoire, on a toujours une idée sur l'histoire. Quand on entend que la version du condamné ou du prisonnier, c'est clair que notre cœur penchera sur sa version à lui souvent, la plupart du temps. Puis on se dit ouais, quand même, c'est un peu fort, c'est un peu beaucoup. On a vite tendance à avoir cette réaction là.
Globalement, qu'est-ce qui te frappe le plus dans ce que tu offres dans l'écoute des prisonniers?
Je crois que c'est la relation, le lien. J'ai affaire à des gens qui ont plein de relations, de liens qui ont été coupés ou qu'on n'a jamais eu. Donc de relations, de liens avec les autres, avec d'autres humains. Ou alors qui ont des relations, des liens qui sont faussés, qui sont malades, qui sont mal fichus, qui se basent justement sur des vécus, sur des blessures, sur des besoins. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le manque de lien ou le lien qui est malade. Ouais, c'est ça qui me frappe le plus. D'ailleurs, c'est mon job hein, de me mettre, humainement parlant, de me mettre en lien avec ces gens-là, là où ils en sont maintenant. Je ne suis pas appelé à les conduire à quelque part, je suis appelé à les rencontrer là où ils en sont.
Et eux, est-ce qu'ils ont des attentes vis-à-vis de toi?
Ben, je crois que chacun c'est différent. Je vais toujours en prison avec une plaque de chocolat par détenu. Donc j'amène toujours une plaque de chocolat. Alors il y en a peut-être, leur attente c'est d'avoir une plaque de chocolat. C'est possible. Il y en a d'autres, simplement de voir quelqu'un, je crois que c'est ce qui me frappe le plus, c'est de voir quelqu'un qui n'a rien à faire avec le système. Avec le système judiciaire, le système policier, le système de manière générale. Voilà. Et puis de voir quelqu'un de manière un peu plus neutre, justement, pour reprendre le terme. Et puis de discuter, là où on en est maintenant, justement. C'est ce que je ressens le plus. D'autres, alors, viennent avec des attentes un peu plus sérieuses au niveau de la foi, par exemple, d'interpellation. Parce que justement, je ne vais pas pour amener Jésus, puisque Jésus y est, je vais pour le rencontrer. Mais souvent, en prison, ce sont quand même des gens qui se posent pas mal de questions sur le sens de la vie, sur Dieu, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, s'il existe, pourquoi il permet que j'en sois là maintenant. Donc si moi je ne viens pas sur le sujet, après 3-4 visites, c'est eux qui en viennent naturellement.
D'une façon générale, les prisonniers sont visités Ou est-ce qu'il y a une grande... On constate quand même que la société a peur de tout ce milieu et se trouve quand même un peu en retrait.
Alors la société a peur, ça c'est sûr. Hein. C'est en prison, comme ça on met les gens en prison pour sécuriser la société déjà. Hein. C'est pas seulement pour les punir, c'est aussi pour sécuriser la société. Donc, je pense que les gens ont peur. Puis on s'imagine, là, c'est les méchants, puis nous, on est du côté des gentils. Je pense qu'on est assez bien, on divise assez bien les choses dans ce sens-là. Puis ça nous fait du bien de savoir qu'on est du côté des gentils. Donc, on a peur. Donc, on va pas forcément essayer d'aller en prison pour voir ces gens-là.
Quel sentiment ça laisse, justement, après toutes ces visites? Comment tu te sens?
Alors, il y a les situations personnelles qui me pèsent. Mmh. Et puis, il y a quand même souvent cette interpellation de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux que la prison? Quand il y a des gens qui font des choses illégales, qui vivent dans l'illégalité, je pense qu'il faut intervenir, c'est juste. J'ai souvent l'impression que la prison, c'est pas le bon moyen pour que ces gens puissent retrouver une vie normale. Mmh. Maintenant, le problème, j'ai pas de solution à proposer autre que la prison. Moi, ça me laisse songeur, et puis c'est surtout ça qui me travaille.
Ses allées et venues en prison n'ont pas blindé les portes de son cœur à la problématique carcérale et à la souffrance humaine. Loin de là, il sait combien le Christ est présent derrière les barreaux et qu'il agit, et parfois même d'une façon hors du commun.
C'est un prisonnier que je commençais à voir. J'ai vu deux fois ou trois fois. Et les choses se sont arrangées de telle manière qu'il a vécu quelque chose avec Dieu. La première fois qu'on s'est vu, on a parlé de choses et d'autres. La deuxième fois, il m'a demandé un petit peu si je croyais, puis on a parlé un peu de foi. Et la semaine qui a suivi, il a vu un film à la télé sur Jésus. Il a lu un livre, il était interpellé, et puis il s'est dit, ce serait peut-être bien que je lise la Bible. Et le dimanche soir, il y a un surveillant qui est chrétien, il a dit, j'avais à cœur t'apporter une Bible. Alors, pendant la nuit, sa cellule s'est illuminée. Et Jésus lui a parlé. Il a parlé à lui, à son cœur. Et il a été vraiment, sa vie a été complètement, en tout cas, son regard sur Dieu et sur Jésus a changé, quoi. Alors, ça n'a pas réglé tous ses problèmes, mais, et ça lui permet encore de tenir maintenant.
Alors ça, c'est une expérience forte. Hein. D'aucuns diraient que c'est un peu une expérience mystique. Mais pour toi, ça veut dire quelque chose. C'est possible de vivre ce genre de relation, avec le Christ?
Ben oui, bien sûr. Et surtout en prison, je pense que mais voilà, comme le verset, j'étais en prison, vous devez me voir. C'est pas parce qu'on est en prison que le Christ n'est pas là. Mmh. Au contraire, je crois que il attend qu'il y ait des portes entrouvertes pour se manifester. Ouais. Dans l'histoire biblique où on voit Jésus qui fonctionne, il a jamais condamné les petites gens. Il s'est toujours trouvé à quelque part à les défendre. Tous les gens qui étaient exclus du groupe ou de la société, il a été les rencontrer. Et de son humanité, en fait, moi, c'est une des choses qui ressort les plus forts. Il allait à la rencontre des plus petits. Il a même dit, moi, je suis venu pour les malades, dans le sens, les petits, les exclus, je ne suis pas venu pour les bien portants. Donc, c'est surtout ces gens-là qu'il est venu rencontrer. Donc, il s'identifie à ces gens-là. D'ailleurs, sa mort sur la croix, c'est typiquement ça. Il est mort pour les gens qui se considèrent comme étant pas parfaits ou comme étant ayant fait des fautes. Donc, il s'identifie à ces gens-là, mais il s'identifie à nous aussi quand on se rend compte qu'on n'est pas parfait et puis qu'on ne peut pas atteindre Dieu ou on ne peut pas être l'homme idéal ou l'homme tout-puissant. Il nous rejoint là quand on prend conscience de ça. Et les petits, je pense, se rendent compte plus facilement que nous, si je peux dire. On est plus ou moins bien intégrés dans la société, ils se rendent plus facilement compte de leurs limites. Donc dans ce sens-là, Jésus les rejoint aussi plus facilement.
Nous étions en compagnie de Bernard Brunisoltz qui va rencontrer Jésus en prison, comme nous avons pu l'entendre. L'association dont il fait partie a un site internet, www.jetezenprison.ch. Les émissions C'est vous l'histoire sont signées Radio Réveil. À plus.
Vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Alors, si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org pour la réécoute des podcasts. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Si vous voulez le faire depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Et si vous voulez le faire en dehors de France, eh bien vous faites le 00 33 1 80 14 44 77. Et si vous voulez le faire depuis les États-Unis, eh bien il y a un numéro spécial qui est le 1 712 432 9978. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste AWR pour votre émission en français La Voix de l'Espérance, et vous étiez pour cela en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Prenez bien soin de vous.